Au flux et à mesure, le magazine de Jet FM, du lundi au vendredi à 18h. Jeudi, social et politique, local et thématique, par la rédaction participative de Jet.
Il faut vivre et il faut penser intensément à notre époque, la construire et ne pas avoir peur. Et nous ne serons jamais, mais jamais trop en avance.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Au flux et à mesure, nous vous proposons d'écouter Pierre Berneur, cofondateur de l'association Homo Sapiens. Bonne écoute.
Bonjour Pierre Berneur.
Bonjour.
Vous êtes cofondateur et président d'une jeune association qui s'appelle Homo Sapiens. C'est quoi ?
Homo Sapiens, donc c'est une association qui a été créée en décembre 2021, donc effectivement qui a 4-5 mois d'existence. C'est une association qui réunit une trentaine de personnes et dont l'objectif est de réunir les conditions à la fois sociales, techniques et légales pour faire reconnaître et développer un nouveau mode de sépulture en France, les sépultures régénératives.
Qu'est-ce que c'est, les sépultures régénératives ?
Alors, avant, qu'est-ce que c'est à quoi ça sert ? Pourquoi ? C'est basé sur un concept qui est globalement le concept de mort régénérative, ou qui est plutôt une aspiration ou une belle idée, qui est l'idée de dire qu'on pourrait faire de notre mort l'occasion de préserver, voire de régénérer le vivant, notre planète, voilà, qui nous a nourri toute notre vie. Donc ça c'est l'idée, le pourquoi, et donc la sépulture régénérative c'est tout simplement la solution funéraire qui permettrait d'en faire une réalité.
Alors concrètement, le corps est mis dans un cocon qui va permettre une décomposition adaptée pour que la matière organique qui compose ces corps morts puisse venir nourrir la terre comme un compost.
C'est exactement ça. Pour mieux le comprendre, en fait, il suffit de penser que ça ne sort pas de nulle part, cette solution. C'est tout simplement inspiré du fonctionnement du vivant. Voilà. La vie existe sur Terre depuis plusieurs centaines de millions d'années. Il y a des organismes qui vivent, il y a des organismes qui naissent, il y a des organismes qui meurent. Et pour autant, la question du funéraire ou des déchets ou de la pollution issue du funéraire n'avait pas vraiment lieu ou ne se posait pas avant l'apparition de l'homme. Pourquoi ? Quelle solution a été inventée par le vivant au cours de cette évolution ? Eh bien, tout simplement, c'est un processus que les scientifiques appellent l'humification. C'est le principe qui fait que la matière organique tombe par gravité au niveau du sol, sur le sol, je précise bien, et que donc il y a tout un tas, une myriade de micro-organismes présents dans les toutes premières couches du sol, qui vivent grâce à l'oxygène en fait qui est présent, qui permettent la décomposition de ces matières organiques et la transformation en humus qui lui est sain et fertile et qui permet d'alimenter les racines des végétaux et de réenclencher un cycle du vivant comme ça.
Une question que je ne vous ai pas posée, c'est sur le coût et le coût pour les personnes quand on parle d'accessibilité financière des techniques d'humusation, plus largement de sépulture régénérative. Est-ce que le coût serait différent pour les familles ?
Aujourd'hui, les coûts augmentent. Ils sont autour de 5 000 euros en moyenne, que ce soit inhumation ou crémation, pour une sépulture. Les coûts augmentent. L'idée d'un mode de sépulture régénératif, il est complètement inverse, évidemment. C'est comment faire quelque chose qui soit le plus sobre possible et donc qui ait une traduction, on espère, économique au sens financier associé et donc qui soit aussi sobre en termes de prix. Parce que, notamment, la matière première qui est nécessaire pour procéder à l'humification, c'est de la matière qui est uniformément répartie à l'échelle du globe et qui est commune, en fait. Voilà, on parle de matière comme du broyat végétal, des organismes du sol, enfin des choses qu'on trouve partout. Donc ça, c'est déjà un élément de différenciation fort. En termes de services, nous, on s'opposerait à effectivement proposer des services uniquement, en tout cas, dans l'optique de vendre plus cher. Un service comme la thanatopraxie, qui consiste en des soins de conservation, va en opposition de toute façon avec la logique de faire don du corps et de permettre une régénération rapide du corps. Après, il reste la question des infrastructures. Et là, tant qu'on ne sait pas quel sera le protocole précis qui sera développé entre une version hors sol, au sol ou des choses intermédiaires, c'est impossible de répondre sur le coût qui serait du coup afférent et en lien avec ces infrastructures. Au global, pour répondre, aux États-Unis, aujourd'hui, ils proposent cette solution-là régénérative. C'est la société Recompose notamment qui propose ça, pour un coût, je crois, entre 5 et 6 000 dollars, qui en fait place ça sur un équivalent à l'inhumation ou la crémation, alors même qu'ils ont une solution hors sol, donc plus coûteuse. On espère donc qu'une solution au sol, si c'est celle-ci qu'on est amené à développer in fine, sera beaucoup, beaucoup plus accessible en termes de prix. Et c'est important, d'un point de vue social, que chacun puisse faire le choix d'une sépulture qui lui fait sens, à prix raisonnable.
Pierre Berneur, il existe d'autres techniques plus écologiques en termes de sépulture. Alors, tu vas nuancer. En tout cas, on entend parler aussi d'aquamation ou de promession. Est-ce que tu peux nous dire ce dont il s'agit et si ce sont des solutions que tu juges intéressantes ?
Alors, le contexte global dans lequel on s'inscrit, là, d'un point de vue funéraire, comme je l'ai mentionné plus ou moins directement, c'est l'idée que les modes de sépulture actuels ont un certain nombre d'externalités négatives, posent un certain nombre de problèmes, que ce soit en termes de pollution chimique ou d'empreinte carbone notamment. Et donc, on n'est pas les seuls à imaginer d'autres solutions. Et donc, il y a notamment... Donc nous, on cherche à s'appuyer sur le processus naturel d'humification, mais il y a d'autres processus qui sont imaginés aussi pour offrir demain des alternatives funéraires. L'aquamation, on l'appelle souvent la crémation par l'eau. Le point commun avec la crémation, c'est que c'est un processus rapide, efficace. Là, encore une fois, certains pourraient dire violent, si ils sont plutôt pour une disparition douce du corps. Et en gros, le corps est placé dans une solution alcaline qui fait qu'il se dissout dans le liquide ça aboutit avec un liquide qui en gros doit être traité derrière. Donc c'est une manière, entre guillemets, de faire de la crémation sans avoir une empreinte carbone forte.
Par contre, empreinte chimique
Il faut faire des études. Aujourd'hui, nous n'avons pas eu connaissance d'études sur le sujet, sur le résidu, entre guillemets, de cette opération. Nous, ça nous apparaît plus comme une manière de résoudre des problèmes liés aux pratiques actuelles, alors que notre ambition chez Homo Sapiens, c'est pas seulement de résoudre des problèmes, c'est de créer quelque chose de beau et de créer du positif. C'est-à-dire on renverse complètement la logique, et comment est-ce qu'on peut faire de la mort une source de vie, tout simplement. La promession, c'est un peu la même logique de voir comment est-ce qu'on peut trouver une solution funéraire qui répond aux problématiques de pollution actuelles. La technique, alors le corps est gelé, peut-être avec de l'azote liquide ou je ne sais plus avec quelle méthode, mais il aboutit, voilà, il est figé, et en gros après on le met sur une table vibrante qui fait que le corps devenu friable se transforme en une espèce de poussière, et après je ne sais pas ce qu'ils font de cette poussière là, mais donc tout ça pour dire qu'il y a d'autres solutions funéraires qui sont imaginées. Encore une fois, pourquoi est-ce que nous on souhaite pousser une solution par humification? C'est la volonté de régénération, voilà. Donc de créer du positif, pas seulement résoudre des problèmes négatifs.
Nourrir la terre, nourrir les arbres, les plantes, le vivant.
S'inscrire dans le vivant, voilà, et léguer la vie, créer de bonnes conditions de vie, et pour les raisons écologiques qui vont avec, et pour les raisons sociales ou spirituelles. associés.
À l'heure actuelle, en France, tu le disais, Pierre Berneur, il y a deux techniques qui sont autorisées, donc la crémation et puis l'inhumation. L'inhumation, elle peut se faire en pleine terre, dite en pleine terre, c'est-à-dire que, eh bien, il n'y a pas le caveau avec le béton autour et c'est le cercueil qui est directement en pleine terre.
Tout à fait. Alors, premier élément de précision, en fait, on a trois solutions en France, inhumation, crémation ou don du corps à la science. Maintenant, une question effectivement qui est très précieuse, très pertinente, c'est effectivement la différence entre l'inhumation et l'humification. C'est tout simplement une histoire de profondeur à laquelle est placé le corps. Comme je le disais, dans la nature, la matière organique arrive sur le sol. Et donc les organismes qui permettent la transformation en humus sont présents vraiment dans les toutes premières couches du sol parce qu'il faut bien qu'ils vivent d'oxygène aussi. Ce qu'on a fait, à un moment donné, nous, êtres humains, c'est qu'on a fait un choix culturel qui est de dire on va enterrer profondément, donc au moins 1,50 m, les corps. D'un point de vue en tout cas purement chimique ou physique, ça fait que le processus d'humification ne peut pas avoir lieu. En fait, on enterre tellement profondément les corps qu'à ces profondeurs-là, donc au moins 1,50 m, il n'y a pas de vie organique dans le sol. Et donc, ce qui se passe, c'est une situation qui n'arrivait jamais à l'état naturel, c'est de se retrouver avec de la matière organique profondément enfouie. Et donc, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas une pratique naturelle qui s'inscrit dans le cycle des choses, quoi.
Pour autant, au bout d'un moment, il ne reste que les ossements.
Je n'ai pas, donc voilà, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de décomposition. Voilà, il y a une décomposition. En termes de chimique ou physique, on va parler de décomposition anaérobie, sans oxygène donc, mais qui, elle, pour le coup, est beaucoup moins vertueuse parce que le résultat physico-chimique, on va dire, de cette décomposition, c'est la production de toxines comme la putrescine, la cadavérine, qui sont sources de pollution majeure pour les nappes phréatiques, pour les sols. Voilà. Et c'est aussi ces raisons-là qui ont conduit la législation à trouver des parades, en fait, à ces problèmes-là, comme l'obligation d'avoir des cercueils, des caveaux pour contenir les choses, et aussi l'interdiction d'enterrer à moins de 100 ou 150 mètres des habitations. Donc il y a une prise de conscience, il y a quand même, notamment dans les milieux autorisés, on va dire, de cette problématique-là.
Quels sont les défis précis autour de l'humusation au niveau sanitaire?
Avant de répondre à cette question, déjà bien comprendre que quand on veut, on peut. Ce que je veux dire par là, c'est que on parle beaucoup du défi technique. Le premier défi pour nous, il est culturel.
On reviendra dessus, hein, largement.
Parce que faire de l'inhumation ou de la crémation, c'est aussi techniquement très compliqué. Mais on avait la volonté de trouver des solutions et donc on les a trouvées. Pour les sépultures régénératives par humification, le défi, effectivement, c'est de s'assurer que l'humification, le processus d'humification, se passe dans les meilleures conditions, d'optimiser les conditions, de les contrôler pour que la transformation en humus se passe de la manière la plus saine et sûre possible. Et en fait, il y a plusieurs protocoles qui sont imaginés. C'est encore c'est quelque chose de jeune comme recherche. Et donc, il y a encore beaucoup de choses à imaginer et à prouver sur le sujet. C'est pour ça que l'objectif de notre association, c'est de travailler à réunir ces conditions-là. Et on peut déjà parler de deux modes de fonctionnement ou deux protocoles très différents. Aux États-Unis, c'est autorisé, mais ils font de la sépulture régénérative hors sol. C'est-à-dire que, un peu le principe d'un crématorium, enfin, c'est-à-dire qu'il y a une infrastructure, on place le corps dans un cocon, vraiment c'est des unités individuelles. Et là, il va y avoir en gros des équipements qui vont s'assurer que les conditions physico-chimiques dans lesquelles est placé le corps sont toujours optimales. Voilà, d'un point de vue humidité, d'un point de vue oxygène, d'un point de vue des matières carbonées, des micro-organismes présents. Voilà.
Mais ça correspondrait à de l'agriculture hors sol, en bac.
C'est les mêmes enjeux qu'autour de l'agriculture urbaine, c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que on essaye de tenir au maximum compte de l'environnement, de ce qui peut apporter d'utile ou des freins qu'il peut représenter pour suivre un dessin, soit faire pousser des plantes, soit transformer le corps en humus. Mais c'est effectivement la même logique. Et là, il y a deux écoles. Comme pour l'agriculture, c'est dans quelle mesure est-ce qu'il faut absolument se placer dans les conditions naturelles à même le sol. Donc là, on est plutôt dans la vision belge des choses en termes d'humification. Ou est-ce qu'on considère que l'humification hors sol à l'américaine peut être une bonne solution. Pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés.
Quels sont-ils ?
Les avantages dans la version hors sol, c'est un meilleur contrôle du processus, parce qu'il y a moins d'aléas extérieurs, forcément, et qu'on a recréé des conditions spécifiques, optimales. Donc une plus grande rapidité aussi du processus. En un mois, on transforme un corps en humus. Ça, c'est pour les principaux avantages. Les inconvénients, c'est d'un point de vue financier déjà, ça demande plus d'investissement en infrastructure et donc quelque part pour les citoyens à terme, ça serait forcément une solution plus chère. Et puis après, il y a la question du sens. Il y en a pour qui ça pourrait sans doute représenter une incohérence de viser à s'inscrire dans le cycle du vivant et pour autant de passer par une étape avec des équipements tels que ceux utilisés aux États-Unis. Il y en a pour qui je pense que ça ne poserait aucun problème de faire appel à ces équipements à partir du moment où ça permet une transformation en humus derrière.
Voilà. Et l'humusation, directement dans le sol, quels sont ses avantages et ses inconvénients ? C'est plus long, donc ?
On va retrouver les avantages et inconvénients opposés. C'est-à-dire que le processus prendrait plus de temps.
Combien ?
Une petite année, on va dire 9 mois. On aime bien dire voilà, il faut 9 mois pour faire une vie et 9 mois pour la défaire. C'est un peu une image qui nous parle. Je parle au conditionnel parce que autant aux États-Unis effectivement, c'est en vigueur, autant la version au sol telle qu'elle est imaginée en Belgique reste à l'état de recherche. C'est déjà une preuve en soi que c'est plus complexe à valider. Les avantages, c'est que c'est plus sobre en termes, ça demande moins d'équipement. Donc forcément plus résilient à long terme, moins coûteux. L'inconvénient, c'est qu'il faut arriver à garantir la maîtrise du processus. Mais là, on n'en est vraiment qu'au tout début de la recherche et on peut imaginer énormément de choses. Et peut-être pour conclure sur cette question-là, on n'affirme pas, côté Homo sapiens, avoir réponse à tout. L'idée, c'est plutôt de dire on a un concept qu'on trouve beau, qu'on trouve complètement aligné par rapport aux défis de société qui sont les nôtres et notre envie de nouveaux imaginaires. Les solutions concrètes, on veut les co-construire avec les citoyens, avec les collectivités, voilà, avec tous ceux qui ont envie de contribuer à imaginer les sépultures de demain.
Que deviennent les os ?
Alors les os, c'est dur, c'est solide. Heureusement d'ailleurs, c'est ce qui nous sert à tout tenir. Et donc c'est très difficile à dégrader. Je ne sais pas à l'état naturel, d'ailleurs je n'ai pas la réponse combien de temps ça prend. J'imagine que ça dépend des conditions. Quoi qu'il en soit, pour les sépultures, c'est le même problème que ça soit l'inhumation, crémation ou humification. Il faut une action spéciale et en l'occurrence, on les broie. On broie les os, que ce soit, encore une fois, inhumation, crémation. Ou ce qu'on ferait également pour l'humification.
Qu'est-ce que ce serait une humusation de corps non maîtrisé ? Quels sont les risques justement potentiels sanitaires ?
Encore une fois, l'humusation, c'est un seul protocole en Belgique, en parlant plutôt, on y tient, d'humification, quel nom du processus, ou de sépulture régénérative tout simplement. Les risques au niveau sanitaire sont les mêmes que ceux de l'inhumation, sauf qu'ils ne sont pas cachés. c'est tout simplement qu'il y ait des bactéries, des toxines, des éléments chimiques qui puissent venir contaminer des organismes vivants, voire des humains, alentour.
Mais vous disiez que c'est le même risque que sur une inhumation plus classique. Le fait qu'il n'y ait pas que le corps soit directement en terre, ça n'augmente pas les risques ?
Alors, c'est là où il faut être précis sur les termes. Directement en terre, est-ce qu'on parle d'inhumation en pleine terre ou d'humification ? C'est pour ça, encore une fois, on n'enterre pas dans la terre, on met au contact de la Terre, on pourrait le dire comme ça, que ça soit au sol ou hors sol. Les risques sont forcément un petit peu différents. Enfin, le risque est le même, mais les conditions dans lesquelles placer le corps sont différentes. Donc, effectivement, c'est une histoire de où passent les bactéries ou les virus, enfin les éléments potentiellement toxiques. Avec l'inhumation, ils sont diffusés dans le sol. Voilà. Donc, ils ressortent à un moment donné. Au bout de plus ou moins de temps et que ça soit au niveau de la terre ou des nappes phréatiques, enfin c'est beaucoup plus dur à tracer en fait. L'humusation, ça serait sûrement beaucoup plus direct, mais c'est du coup plus facile de le contrôler. Et notre enjeu, si vous voulez, c'est aussi que le processus soit suffisamment efficace pour annihiler ces potentiels risques chimiques. Dans la nature, l'activité des micro-organismes du sol fait que la température monte en fait dans ces milieux-là. Et passer un certain degré, 60 degrés en l'occurrence, les éléments toxiques sont neutralisés. Et donc c'est là où on voit que l'idée c'est pas d'avoir une solution amateur, mais bien d'avoir une vraie solution professionnelle telle qu'elle a dû être développée pour l'inhumation et la crémation à l'époque. Pour avoir quelque chose qui soit le plus sûr possible.
Et sans exclure par exemple des personnes qui auraient eu une chimio ou des processus lourds, est-ce que c'est des modes de sépulture qui peuvent exclure une partie de la société ?
Bien au contraire, je pense qu'il n'y a pas de mode de sépulture plus égalitaire que ce mode de sépulture régénératif par humification, notamment parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce qui pourrait être sous-entendu dans votre question, l'inhumation et la crémation, aujourd'hui, ne répondent en rien en fait, à ces problématiques de pollution, qu'elles soient chimiques ou atmosphériques ou de CO2. Trouvent plutôt des palliatifs, voilà, avec les caveaux pour contenir, des filtres à air au niveau des crématoriums pour contenir aussi les toxines, mais qui finissent toujours au final par se retrouver quelque part quand même. Donc déjà, premier élément de réponse, les modes de sépulture actuels ne permettent pas de garantir ça. Deuxième élément de réponse, l'humification, parce qu'elle travaille en bonne cohérence et en bonne intelligence avec le vivant, et qu'elle travaille en bonne intelligence avec une diversité de micro-organismes de toute taille et avec des formes d'activité différentes, fait que le corps est vraiment décomposé de la manière la plus totale ou harmonieuse possible sous forme d'humus, et que ça va venir casser les molécules qui sont potentiellement toxiques, bien plus que ne le font l'inhumation et la crémation.
Est-ce qu'on a aujourd'hui une idée de l'impact écologique des modes de sépulture actuels en global, en fait ?
Alors, l'impact écologique, quand on parle de global, on est obligé de rentrer dans un petit niveau de détail et de séparer, par exemple, l'impact en termes de pollution chimique ou l'impact, par exemple, en termes d'impact CO2. Et là, on voit que les deux peuvent s'inclure dans l'impact écologique, mais que ça recouvre quand même des réalités très différentes. Vous parliez tout à l'heure de l'inhumation en pleine terre, et donc il y a aussi l'inhumation avec caveau. Et ben, l'inhumation en pleine terre va avoir un impact pollution chimique bien plus important, parce que justement on ne contient pas ou moins les problèmes de pollution. Avec le caveau, ça peut être l'inverse, ça va être une pollution plutôt CO2 liée
avec l'inhumation, vous voulez dire ?
Avec l'inhumation,
avec la crémation, pardon.
Non, avec l'inhumation, avec l'inhumation, mais avec caveau. Parce qu'il faut fabriquer toutes ces infrastructures, les déplacer, les transporter. Donc voilà, on voit même que pour un même mode de sépulture, en fonction de comment on l'applique, il peut y avoir des impacts très différents.
Et la différence, c'est quoi ? C'est une échelle de 1 à 20 ?
C'est même pas une, c'est une, sur pas le une différence CO2, de degré, c'est sur, une différence de nature pour le coup. Là.
Ouais, mais si on est sur l'aspect énergétique, consommation de matériaux, pollution atmosphérique, est-ce qu'on a une idée des différences d'impact en fonction des choix de sépulture ?
Déjà, élément de réponse un peu global, ça reste obscur quand même. Et donc il y a peu d'études sur les impacts écologiques, voire sociaux, on pourrait imaginer, des modes de sépulture actuels. La seule étude qui a été faite porte sur ce qui est le plus facile à mesurer au final, qui est l'impact carbone. Elle est réalisée en 2017, je crois. Et elle montrait que l'inhumation et la crémation avaient un impact carbone non négligeable. Grosso modo, en moyenne, une inhumation ou une crémation représente l'équivalent de 4000 km en voiture, je crois, pour une personne.
Est-ce que, quand on parle de ces pratiques et du cycle, vous parlez, Pierre Berneur, de cycle du vivant, le compost, l'humus obtenu à partir de la décomposition de corps humains, peut-il être de bonne qualité et de nature à nourrir la terre ?
Eh ben, encore une fois, on en est au stade de recherche, notamment en Europe. Aux États-Unis, la qualité est suffisamment, de l'humus obtenu est suffisamment bonne pour qu'on puisse le disposer et venir nourrir des forêts mémorielles. Voilà, et les arbres sont en pleine santé. Déjà, il y a la question de qu'est-ce qu'on veut en faire de l'humus. Votre question est très technique, au final très matérielle. On peut déjà introduire la réponse par une question un peu plus spirituelle, de dire... Qu'est-ce qu'on veut faire de l'humus ? Est-ce que on veut l'utiliser pour réenrichir des sols appauvris ? Ce qui, d'un point de vue matériel, est là où il y aurait le meilleur usage à faire, mais d'un point de vue du sens ou de la projection, est peut-être moins acceptable. Et après, il y a effectivement quelle est la qualité de l'humus produit. Encore une fois, aux États-Unis, les résultats sont probants. Avec la technique qu'ils emploient, avec la version au sol en Europe et notamment en Belgique, ça reste au stade de recherche et aujourd'hui on n'a pas d'étude qui est venue valider ça. Et si notre étude d'acceptabilité nous oriente vers le choix d'un protocole au sol, évidemment ça fera partie de nos objectifs que de mener une étude déjà d'impact uniquement à l'échelle de l'humification, mais surtout une étude comparative des impacts écologiques avec les modes de sépulture aujourd'hui autorisés en France.
Pierre Berneur, vous êtes cofondateur du Homo Sapiens. Vous nous avez dit, l'association a juste quelques mois. Vous êtes une trentaine de membres. Vous, d'abord, personnellement, qu'est-ce qui vous a motivé en termes d'engagement sur cette thématique ?
Le désespoir, c'est la vision négative, ou plutôt la quête d'espoir, je vais le dire comme ça, c'est plus positif, qui rejoint ce que je disais juste avant. On a appris beaucoup de choses assez anxiogènes ces dernières années, même si théoriquement elles avaient été, ces difficultés-là, elles avaient été imaginées plus tôt, mais là on en prend vraiment compte.
Parler du rapport Meadows ?
Voilà, effectivement, qui restait théorique, même s'il y avait déjà des problèmes au niveau de la couche d'ozone, par exemple, à cette époque, et qui commençaient à poindre. Mais là, la différence, on est tous capables de sentir dans notre chair et autour de nous des impacts réels qu'il y a un problème, tout simplement, dans notre manière de voir et d'habiter le monde. Et face à ça, au final, il y a peu, à mon sens, en tout cas, il y a encore quelques années, je trouvais peu de motifs d'espoir, c'est-à-dire d'actions concrètes qui permettent de penser qu'on imaginait changer les choses, et re-questionner nos projets de société et nos modes de vie. Et donc j'ai cherché à un moment donné un projet qui me donnerait l'espoir d'un avenir meilleur, d'un avenir où on prendrait conscience de notre appartenance au vivant et que ça ne serait pas vécu comme un échec, mais que ça soit vraiment source d'épanouissement. Je pense que c'est ça notre projet fédérateur de société, même à l'échelle mondiale demain. Et il n'y avait pas de projet concret. Et je suis tombé un peu par hasard sur cette solution funéraire régénérative, ce concept. Et là, ça m'a marqué. C'était au moment de la crise Covid en plus. Donc ça faisait double écho. On parlait beaucoup du monde d'après. Moi, j'ai directement fait l'association monde d'après, sépulture régénérative, quoi. C'est pour moi un élément culturel socle de ce monde d'après. Et à ce moment-là, dernier élément qui est venu me conforter dans l'idée d'en faire un projet dans lequel je m'investisse vraiment, c'est que j'ai appris que j'allais devenir papa, et j'ai pris conscience à l'échelle individuelle personnelle dans mon cœur que ce cadeau de la vie, alors ça paraît un peu bateau dit comme ça, mais m'était fait aussi parce que on se nourrit du vivant qui nous entoure. et que ce petit être qui allait grandir, c'était possible parce qu'il se nourrissait du vivant qui l'entoure. Et donc, que le cycle du vivant, on avait tout intérêt à s'y intégrer.
Qu'est-ce que vous faites concrètement comme action au niveau de Humo Sapiens ? C'est bien parler de ces sépultures régénératives, du lobbying auprès des hommes et des femmes de loi. Qu'est-ce que vous faites ?
On a deux grandes familles de missions. La première, c'est une mission de recherche. On part d'un concept, il faut en faire une réalité. Et pour ça, il faut apporter des preuves et des garanties. Il faut comprendre les choses, y répondre. Donc on fait des travaux de recherche à la fois sur le plan social, recherche socio-culturelle. On veut lancer cette année et réaliser une étude d'acceptabilité sociale, voilà, comprendre c'est quoi les représentations, les freins, les motivations autour de la mort pour commencer à construire demain des solutions régénératives. Et des travaux de recherche plus techniques, matériels, pour expérimenter vraiment des solutions concrètes, qu'elles soient hors sol, au sol, entre les deux, on ne sait pas encore. Il y a plein de possibilités. Donc ça, c'est la première famille de mission, de recherche. Et l'autre grande famille, c'est évidemment le plaidoyer, avec là deux niveaux, plutôt l'information grand public et une autre cible qui sont les décideurs. Voilà. Et donc là, c'est plutôt une logique d'influence. Comment est-ce qu'on va venir influencer les décideurs aux échelons locaux, les collectivités, parce que les collectivités sont aussi des bénéficiaires fortes de ce projet-là, au titre du fait qu'elles sont responsables aujourd'hui de la gestion funéraire à l'échelle locale, et qu'elles doivent elles aussi relever des défis d'impact, pollution, carbone, les défis sociaux, du prix, toutes ces difficultés liées aux pratiques funéraires. Et le législateur, après à l'échelle nationale, qui est le seul au final qui est capable de valider définitivement cette nouvelle possibilité.
Vous vous inscrivez dans des réseaux locaux au sein de Humo Sapiens. Vous avez des liens avec la coopérative funéraire notamment ?
Donc déjà, on est très jeune. Donc notre structure est jeune, donc notre réseau partenarial est jeune aussi. Il n'empêche que l'association a été créée il y a 5 mois, mais le projet, lui, ça fait déjà plusieurs années qu'on le mûrit avant ça. Donc effectivement, on a déjà pu créer des liens. Il y a trois grandes familles d'acteurs avec lesquels on veut tisser des liens. Le monde funéraire, et notamment les acteurs qui réinterrogent les pratiques. Vous avez mentionné les coopératives funéraires, dont la première a été créée à Nantes en 2016, je crois, qui, elles, réinterrogent la logique d'accompagnement, de personnalisation dans l'approche de la mort, et aussi la répartition des décisions et des bénéfices. Voilà, c'est ça aussi une coopérative. Il y a d'autres acteurs du funéraire qui innovent. Je mentionnerai Happy End, qui est un média d'information qui libère la parole. Je vais pas en mentionner 50, mais tout ça pour dire qu'effectivement, ça, c'est un premier type de réseau. Ensuite, il y a les acteurs du compostage, des professionnels de la transformation de la matière et de la nature, de la connaissance du sol. Et donc là, on est en lien aussi avec des réseaux comme le réseau Compost Citoyen, qui est un réseau de proximité qui a pour objectif de valoriser la pratique du compostage, de former, de diffuser les pratiques. Et enfin, il y a tout le pan, on va dire, de l'économie régénérative, tous les citoyens, les entrepreneurs, les organisations qui sont dans une logique d'inventer des nouveaux mondes, des nouvelles manières d'habiter le monde demain. Et là, on est aussi en lien avec quelques acteurs. À l'échelle locale, à Nantes, on est en lien fort avec Openland, qui est une fabrique de projets évolutionnaires, qui héberge nos réunions d'information, par exemple. JetFM, par exemple, en termes de médias, je pense qu'il réinterroge aussi nos modes de vie et qui ouvre les imaginaires. On a participé à un salon à Paris, à un concours auquel on a été lauréat d'ailleurs, du biomimétisme, des solutions biomimétiques. Voilà, donc ça s'inscrit dans cette logique-là aussi.
Aujourd'hui, les freins qui pèsent encore pour pouvoir mettre en place une diversité de sépultures régénératives, en tout cas pensées dans leur dimension écologique et sociale, quels sont-ils ?
Il y a trois freins au global qu'on a identifiés. un frein culturel, effectivement, social.
Jusqu'à présent, on a davantage, en tant qu'humain, cherché à se préserver, et bien justement, de la décomposition, du pourrissement. Il y a ce mot de pourrissement, on peut penser aux momies égyptiennes, donc on essaye de retarder, de préserver au maximum le corps de ce processus. Ça, c'est très ancré et c'est la première chose à renverser.
C'est la première chose à renverser, enfin le levier culturel est le principal, parce que si on arrive à faire en sorte, ou en tout cas à éclairer le fait que c'est une aspiration profonde de société, on ira chercher les solutions techniques et la validation légale pour le rendre possible. Effectivement, la sépulture régénérative, d'un point de vue culturel, c'est un vrai renversement de vision du monde et une réinterrogation profonde de la place de l'humain dans le monde et de son rapport au vivant. Et c'est un petit peu le but aussi de notre projet. C'est-à-dire que, comme je le disais plus tôt, ce qu'on fait, c'est développer ce mode de sépulture régénératif. Pourquoi on le fait ? Parce qu'on veut une société où l'homme soit en harmonie avec le vivant. Et donc, ça nécessite quelque part de changer les mentalités. On sait que c'est un défi et c'est pour ça qu'on s'y engage, justement. Si on revient aux choix qui ont été faits, aux choix culturels de sépulture par le passé... Effectivement, vous mentionniez, peut-être le dire avec d'autres mots, c'est une logique de protection ou de distanciation entre l'humain et le reste du vivant, la nature. Et les modes de sépulture, en ce sens-là, ne sont qu'un reflet d'un projet de société. Enfin, et ça sera la même chose demain. C'est pas en écart. C'est vraiment un éclairage de notre vision du monde à l'échelle de la société. Et donc, l'analyse qu'on pourrait faire, je ne suis pas anthropologue non plus, mais des choix qui ont été faits par le passé, c'est l'idée de dire que pendant longtemps, l'homme a cherché à faire la preuve de sa supériorité par rapport au reste du vivant. Voilà, une quête de reconnaissance quelque part, qu'on était plus puissant, plus fort, différent en tout cas, mais qu'on peut-être cherche déjà, même à l'échelle individuelle, tous à un moment donné de notre vie, de se dire voilà, on est différent, on cherche à sortir du lot. Et c'est ces choix-là, je pense, c'est cette vision-là, cette quête-là, qui a amené à faire ce choix de mode de sépulture qui nous met en distance par rapport au vivant. On commence à voir les conséquences d'une telle vision du monde et donc on pense que c'est le bon moment pour procéder à un renversement, réinterroger cette vision du monde, notamment au travers des modes de sépulture.
Aujourd'hui, comment se place la France au niveau législatif, en termes de recherche? Vous avez évoqué les États-Unis, la Belgique, comme des territoires d'expérimentation. Voilà, où est placée la France?
En France, c'est naissant. On en parle de plus en plus, de ces sépultures régénératives, notamment avec l'humification. Mais ça reste récent. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait plus de 2 ou 3% de la population française qui connaissent ce concept-là. Mais donc déjà culturellement, en échelle de la société, puis après je reviendrai sur la partie légale, ça monte vite, mais ça reste peu diffusé pour le moment. Et d'où l'enjeu de rendre ça visible et notre mission d'information. D'un point de vue légal, il est intéressant de noter que les deux pays où ça a le plus avancé sont des pays fédérés et donc avec plusieurs législations. Ça facilite quelque part l'innovation et la réinterrogation de pratiques, l'expérimentation. Et c'est un des défis qu'on va avoir en France. C'est que nous, si on obtient le droit ne serait-ce que d'expérimenter, il faut l'obtenir pour l'ensemble du territoire français. Donc il faut convaincre le législateur dans son intégralité. Donc ça explique qu'on a sans doute un petit peu de retard à l'allumage, mais en même temps, on sent beaucoup d'attentes. On sent que ça suscite beaucoup d'espoir, et donc on est convaincu de l'idée que ça va bien décoller.
Alors Pierre Berner, pourquoi le nom Homo sapiens ?
Pourquoi ce nom ? Donc en deux parties. Déjà au global, ça fait évidemment référence à Homo sapiens, ce que nous sommes, ce qui nous définit, sur le très long terme, et c'est aussi quelque chose qui est important pour nous, cette vision long terme. Humo, ça vient de la langue espéranto, la langue universelle espéranto, et qui signifie terre, humus. Et sapiens, qui est plutôt une racine latine, qui veut dire sage, puisque Homo sapiens, c'est l'homme sage. Et là, ça fait plutôt référence à une autre valeur qui nous caractérise et qu'on aime bien, qui est l'humilité. Voilà, tout simplement.
Alors, Humo sapiens, c'est une association qui a vocation à militer en national, ou pas. Et quel est le sens de votre implantation à Nantes ?
L'influence qu'on espère avoir, elle est d'échelle nationale, européenne, voire mondiale. Voilà. Non, mais on ne se fixe pas de limite. Enfin, on réinterroge un projet de société, mais qui est un projet qui est aujourd'hui partagé dans beaucoup d'endroits du globe. Et les défis sont aussi les mêmes un peu partout sur le globe. Pour autant, on a une implantation, un ancrage fort à Nantes. Effectivement, c'est là où on a notre siège social, c'est là où la moitié des membres fondateurs sont présents et habitent. C'est pas un hasard non plus. Ce qui nous fait aimer cet écosystème local, c'est qu'il est fortement progressiste, à la fois bienveillant, mais qui n'hésite pas à réinterroger les choses, à défendre des engagements. Donc on se reconnaît tout à fait dans cet état d'esprit et on pense qu'il est porteur pour un projet comme le nôtre. Et enfin, Nantes, c'est une ville des imaginaires, la ville de Jules Verne. Pour nous, c'est la ville idéale pour ouvrir de nouveaux imaginaires, notamment au travers de notre projet Homo Sapiens. Et on espère sincèrement que c'est dans cette ville qui se développe le plus fortement et qu'on puisse y ouvrir dans quelques années le premier humusarium de France, voire d'Europe. Voilà. Et pour ça, on a besoin aussi de l'engagement de la ville, qui commence à donner des signes positifs, et des citoyens. Voilà, c'est important, si le sujet vous touche, aussi, de venir aux réunions de présentation, et j'espère nous rejoindre aussi.
Merci Pierre Berner. Je rappelle que vous êtes cofondateur et président d'Humo Sapiens, Humo Sapiens qui continue à accueillir bénévoles, donateurs, pour celles et ceux qui sont intéressés par le projet.
Exactement. On a lancé la campagne d'adhésion à l'association il y a une dizaine de jours. J'appelle vraiment tous ceux qui aspirent à une autre vision du monde, une autre manière d'habiter le monde, et notamment en harmonie avec le reste du vivant, mais aussi entre humains, à prendre connaissance du projet, notamment via Facebook, LinkedIn, on aura bientôt notre site internet, et à adhérer. Voilà. Aujourd'hui, comme je le disais, notre principal frein ou levier, c'est de faire changer les mentalités. On a besoin de se sentir en mouvement, en collectif, et de pouvoir peser aussi dans les discussions avec les collectivités, avec le législateur. Voilà, on a l'occasion collectivement de montrer qu'on aspire à un autre monde. Vous êtes les bienvenus. On a beaucoup à construire ensemble. Comment sont les sépultures en 2050 ? Et donc moi, je vois bien un peu sur, comme beaucoup d'autres champs de la société, beaucoup plus personnalisé, qu'on est toujours à la fois de l'inhumation, de la crémation, mais aussi voilà, de l'aquamation, de la promession et bien évidemment des sépultures régénératives par humification. Et donc, en 2050, si tout va bien, j'espère que ça fera déjà 20 ans à peu près qu'on aura créé les premiers lieux. Il sera possible de faire appel à cette solution partout en France, dans plusieurs régions, voilà, dans chaque région. Et donc, on aurait tout autant de forêts, voilà, qui seraient plus ou moins âgées en fonction du moment où ça aura été rendu possible sur les différents territoires. Mais la première, si on part du principe qu'elle aura ouvert en 2030, elle aura 20 ans. Donc, on aura déjà des arbres qui auront un peu grandi et où les personnes pourront venir se promener, se reposer, se recueillir, penser à leurs proches, mais aussi vivre, lire, jouer, pourquoi pas. Voilà.
Vous êtes toujours sur Jet FM dans Au flux et à mesure. Vous pouvez dès maintenant retrouver le podcast sur le site jetfm.fr. À suivre dans l'immédiat, la chronique LDH. Bonne soirée sur Jet.